Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'heure suivante, magazine culturel, qui sera continué avec Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La Fédération de la Chambre de commerce et de l'industrie de lundi apprécie le leadership de l'Indonésie au sein de IORA. Le dirigeant de l'ASEAN et la Chine accepte d'entamer les négociations sur COC. Le chef de Myanmar a répondu à la résolution de la crise de l'état de Rakhine. La société indonésienne devrait maintenir l'unité. L'Indonésie premier hôte de l'exposition Miss ASEAN 2017. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a fait le transfert du leadership de l'Association des États côtiers de l'océan Indien, ou IORA, à l'Afrique du Sud lors de la conférence ministérielle de l'IORA en Afrique du Sud en octobre dernier. Divers réalisations importantes ont été réalisées en Indonésie durant sa période de leadership à IORA. Lors d'une réunion de la Fédération de la Chambre de commerce et de l'industrie de lundi avec des représentants des journalistes des pays membres de IORA à New Delhi, en Inde, le mardi 14 novembre 2017, la Fédération de la Chambre de commerce et d'industrie de lundi apprécie le leadership de l'Indonésie dans IORA. Ajay Mutreja, le président du groupe de travail sur la Fédération de l'économie bleue de la Chambre de commerce et d'industrie indienne, a déclaré que l'Indonésie a réussi à organiser le premier sommet de IORA et formuler une vision pour l'avenir de IORA.
But I think thanks to the incredible, innovative and visionary leadership of Indonesia, and as a result,
merci pour le leadership indonésien, ce qui est très innovant et visionnaire. En conséquence, comme nous le savons tous, Jakarta a produit des documents très importants. Vous pouvez juger par vous-même des avantages à long terme de l'accord de Jakarta, du plan d'action, la déclaration sur la déradicalisation, etc. Selon Ajay Mutreja, la communauté des affaires qui sont membres de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Indi sont très actifs et engagés de développer des idées qui ont été formulées à Jakarta, qui est liée à l'autonomisation des femmes, l'économie bleue, la bonne gouvernance et la culture démocratique. IORA comprend 21 pays membres, entre autres l'Indonésie, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Bangladesh, l'Inde, l'Iran, le Kenya, Madagascar, la Malaisie, Maurice, le Mozambique, l'Oman, les Émirats Arabes Unis et Singapour. En 2017 est devenu l'année importante pour IORA parce que IORA avait 20 ans et le sommet de IORA s'est tenu pour la première fois. Le dirigeant des pays membres de l'ASEAN et la Chine ont convenu d'annoncer l'ouverture de négociations sur le cadre ethnique de code de conduite au COC afin de résoudre le conflit de la mer de Chine méridionale. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Madame Retno Marsudi, a déclaré mardi matin à Mani que les dirigeants des pays participants au sommet de l'ASEAN-Chine au Centre international du Congrès de Mani dans le cadre du 30e sommet de l'ASEAN ont annoncé cette décision. Madame Retno Marsudi a affirmé que Singapour avait été désigné pour coordonner des négociations sur les points du code de conduite afin que Singapour ait le pouvoir de diriger les négociations entre les parties pour finaliser ces négociations. L'Indonésie, selon la ministre Retno Marsudi, continuera d'encourager toutes les parties pour que le code de conduite puisse être résolu immédiatement.
Untuk ASEAN China, jadi kemarin leader sudah sepakat meng-announce bahwa
Pour ASEAN et la Chine, les dirigeants ont convenu hier d'annoncer le début de négociations pour le COC. Et maintenant, cela signifie le processus de démarrage pour ASEAN-Chine, qui est le coordinateur, et Singapour. Ainsi, Singapour parlera à la Chine pour déterminer la date de la négociation. Hier, presque tous les dirigeants ont souligné l'importance de commencer des négociations immédiatement. Il y avait un accord sur le niveau des dirigeants pour commencer les négociations. Nous ferons pression pour que la finalisation des négociations soit continuellement poursuivie. Auparavant, le président indonésien Joko Widodo, à la réunion de ASEAN-Chine, a déclaré que toutes les parties doivent collaborer pour commencer et achever immédiatement le processus de négociation de code de conduite. Ceci est important pour prouver au monde que l'ASEAN et la Chine possèdent l'engagement élevé pour avoir un code de conduite. Le président Joko Widodo a également affirmé l'importance des efforts pour améliorer la coopération économique qui bénéficie des deux parties. De plus, actuellement, l'ASEAN souffre d'un déficit commercial assez grand, de sorte que le déficit commercial doit être supprimé, accompagné des efforts pour réduire les obstacles commerciaux. Le président espère également que la synergie de la coopération en matière d'infrastructure et de connectivité entre les initiatives de la ceinture et de la route et le plan direction de l'ASEAN pour la connectivité pourra bientôt se poursuivre. Le chef du Myanmar, Daw Suu Kyi, a répondu à la demande des pays de l'ASEAN de prendre des mesures pour résoudre la crise humanitaire qui s'est produite dans l'état de Rakhine. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré mardi à Mani, aux Philippines, que le gouvernement du Myanmar avait commencé à effectuer la réalisation des recommandations du rapport de la commission consultative à l'état de Rakhine dirigée par Kofi Annan. Selon Mme Retno Marsudi, le dirigeant de Myanmar a également exprimé sa gratitude aux pays qui ont fourni une assistance, notamment au centre d'aide humanitaire de l'ASEAN. Selon elle, le gouvernement du Myanmar a également souligné l'importance d'achever le projet de mémorandum d'accord entre le gouvernement du Bangladesh et du Myanmar concernant le rapatriement des réfugiés rohingyas résidant au Bangladesh. Le gouvernement du Myanmar s'est engagé à mettre en œuvre le projet de mémorandum d'accord 3 semaines après son approbation par les deux gouvernements.
Yang ketiga yang disoroti oleh Dosu adalah mengenai masalah returnee.
Le troisième souligné par Dosu est sur son problème de retour. Ainsi, les personnes qui reviendront et Dosu ont également exprimé l'importance du projet de mémorandum d'accord avec le Bangladesh sur le rapatriement qui sera bientôt achevé. Et la promesse du gouvernement de Myanmar est que 3 semaines après la signature du protocole d'accord, il sera mis en œuvre. Ce qui a été affirmé par Dosu est plus important pour le protocole d'accord à être signé bientôt. Par conséquent, l'Indonésie essaiera de bien communiquer avec le Myanmar, le Bangladesh et avec d'autres parties afin que le projet de ce protocole puisse être achevé bientôt. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie était le premier pays à ouvrir des négociations pour résoudre la crise humanitaire dans l'état de Rakhine lors d'une réunion de chefs d'État de l'ASEAN à Manille, aux Philippines. Auparavant, le président indonésien Joko Widodo, lors d'une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'ONU, M. José Antonio Guterres, lundi soir, a exprimé de nouveau l'inquiétude de l'Indonésie face à la crise humanitaire dans l'état de Rakhine. Le président et le secrétaire général des Nations Unies ont les mêmes points de vue sur la crise humanitaire. Selon le président Joko Widodo, la crise aura un impact sur la stabilité et la sécurité de la région. En outre, selon le président, la crise humanitaire dans l'état de Rakhine donnera naissance à la radicalité et la menace du terrorisme si elle n'est pas résolue rapidement. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. La diversité devient une source principale de la nation indonésienne de faire des percées importantes afin de maintenir l'unité des différents éléments de la nation. C'est ce qui a été dit par le chercheur social de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, Aulia Huda, à la Voix de l'Indonésie, après le séminaire national sur la dialectique de multiculturalisme avec la nationalité, qui a eu lieu à l'Auditorium de LIPI, Jakarta, mardi 14 novembre. La jeune génération devient le fondement de l'avenir pour continuer la lutte de la nation indonésienne dans le progrès technologique.
Generasi mudanya ini kan juga tidak bisa langsung dianggap sebagai kelompok yang homogen ya. Maksudnya generasi muda sendiri itu heterogen.
La jeune génération ne peut pas être considérée directement comme un groupe homogène. Cela veut dire la jeune génération est hétérogène de beaucoup de choses, comme par exemple de sa génération, s'ils sont X ou Y, ou ils sont de quelle classe sociale, classe socio-économique, et le statut social. Ici, il y a un écart. En fait, la génération millénaire qui existe dans le niveau urbain de la classe moyenne. Ce que nous pensons avoir assez alphabétisation, ils maîtrisent la technologie numérique. Ils ont déjà initié des mouvements et comment son mouvement qui a commencé dans ce milieu urbain et associé à celui qui existe dans le village. Le chef du Centre de recherche sociale et culturelle de LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih, a déclaré que la sauvegarde de l'unité de l'Indonésie avec diverses diversités ethniques et culturelles n'était pas facile. Par conséquent, de sauvegarder l'unité est la source principale dans la création du climat propice à la réalisation de la prospérité de la communauté. L'Indonésie accueillera l'exposition commerciale des réunions, incentives, conférences et expositions au MIS de l'événement d'affaires ASEAN à Bumi Serpong Damai, Tangerang, du 9 jusqu'au 11 avril 2018. Le député de développement du marketing du tourisme de Nusantara, Madame Esti Reko Astuti, a déclaré que l'exposition de MIS était la première fois tenue en Indonésie. En outre, la mise en œuvre de ces activités se soudieront parmi les 10 pays membres de l'ASEAN. Selon Madame Esti, l'organisateur de MIS, l'événement d'affaires ASEAN 2018, en plus d'apporter des touristes étrangers, fournira également des opportunités pour des vendeurs de gagner des occasions d'affaires dans le domaine de MIS ou événements d'affaires. Portant le grand thème « Destin de l'ASEAN Plus » pour les réunions et événements, cet événement sera suivi par 200 vendeurs et 300 acheteurs internationaux. Cependant, de l'Indonésie, le nombre atteint 200 acheteurs potentiels. Selon Esti, les touristes étrangers qui suivent les activités de MIS ont des dépenses au-dessous de la moyenne, généralement 3 jusqu'à 5 fois plus élevé que les taux restent ordinaires. D'habitude, ils viennent un grand nombre et sont très susceptibles de revenir. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le commentaire. Chers amis, nous ne savons pas encore quand le conflit du Moyen-Orient est terminé. Cela semble sera plus compliqué avec ce qui se passait au Liban. Après une longue période de calme, maintenant le Liban entre dans une période mouvementée. Deux pays ayant une forte influence au Liban, tels que l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont en désaccord avec les affaires intérieures du Liban. Le point culminant de la tension est la déclaration sur la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri le 4 novembre 2017. Par des séquences vidéo d'Arabie Saoudite, Saad Hariri a annoncé sa démission. L'Arabie Saoudite, par la déclaration du ministre des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir, considère le Liban est un ennemi si le Hezbollah est encore dans le gouvernement du pays. Le Hezbollah, une faction chiite au Liban, est considéré comme une extension du main de Téhéran au Liban. Les Saoudiens ont demandé à ses citoyens à quitter le Liban. Les alliés saoudiens dans le Golfe suivent les étapes saoudiennes. Hariri est encore en Arabie et prévoit de rentrer au Liban. Il va considérer d'annuler sa démission à la condition d'honneur sur la souveraineté libanaise. Des conditions qui ne sont pas difficiles si l'Arabie Saoudite et l'Iran veulent le faire pour l'intérêt du Liban. Le président libanais Michel Aoun n'a pas officiellement accepté la démission de Saad Hariri. Le Liban existe dans la région arabe avec diverses religions. Le dirigeant du pays est divisé par le chrétien et le musulman. Le président est tenu par le chrétien, le premier ministre par le musulman sunnite et le président du parlement est le musulman chiite. Nous espérons que la crise au Liban ne provoque pas de nouveaux conflits armés dans la région. Notre espoir commun, les partis derrière chaque fraction au Liban n'ajoutent pas la situation devient plus chaude. Les dirigeants libanais devraient résoudre les problèmes entre eux sans avoir besoin d'ingérence étrangère pour maintenir la paix au Liban. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'accord de Linggarjati. L'accord de Linggarjati est l'accord politique conclu le 15 novembre 1946 par lequel les Pays-Bas reconnaissent officiellement l'existence de la République d'Indonésie et qui marque le premier accord diplomatique majeur de la Révolution indonésienne. Les Pays-Bas étaient représentés par le gouverneur Hubertus Van Mook et l'Indonésie par le premier ministre Sultan Syahrir. L'autre information est sur l'accident aérien à l'aéroport de Katunayake, Colombo, Sri Lanka, le 15 novembre 1978. Le 15 novembre 1978, un avion transportant de 149 pelerins volant de Kalimantan du Sud à Jeddah, Indonésie, s'est écrasé à l'aéroport de Katunayake, Colombo, Sri Lanka. Un total de 175 passagers ont été tués dans l'accident. L'avion qui porte le numéro de vol WL001TFFLA a atterri dans une ferme de noix de coco à 4 km de l'aéroport de Katunayake où il a nettoyé plus de 200 cocotières. L'avion devait à l'origine remplir l'essence avant de continuer le vol vers Surabaya. Le rapport officiel des autorités sri-lankaises a indiqué que la cause possible de l'accident était que l'équipage n'avait pas suivi la procédure d'approche de la piste. finissons notre journée avec l'événement mis en vente du premier microprocesseur le 15 novembre 1971. La société américaine Intel lance sur le marché informatique l'invention de Marcian Hove, le microprocesseur, baptisé Intel 4004, il coûte $200. Le processeur 4 bits permettra le développement des micro-ordinateurs. C'est Ritok, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteur, voici donc la mise au point sur l'environnement et pour le titre, Al Gore a apprécié la restauration de la troupe indonésienne. L'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, a apprécié les efforts de résoudre les problèmes liés aux forêts et aux tourbières auxquels le gouvernement indonésien s'est engagé dans le cadre des efforts de contrôler des émissions de gaz à effet de serre. Lors de sa visite au pavillon indonésien, lors de la 23e conférence des partis au changement climatique à Bonn en Allemagne, Al Gore a déclaré que l'Indonésie était clairement l'un des pays les plus importants du monde, qui est également touché par le changement climatique dû à l'élévation du niveau de la mer, une tempête plus forte et la dévastation du sous-système agricole. Al Gore a déclaré que l'engagement du gouvernement d'Indonésie est réalisé dans l'utilisation des énergies renouvelables et continue à résoudre les problèmes des forêts et des tourbières. Le lauréat du prix Nobel 2007 dans le domaine de l'environnement exprimait son grand plaisir de continuer à travailler avec les leaders du climat et les individus du gouvernement d'Indonésie pour résoudre les problèmes de changement climatique. Les leaders du climat sont le nom d'activistes environnementaux qui ont participé à la formation initiée par Al Gore à travers le projet de réalité climatique. Al Gore invite également la communauté internationale à soutenir le projet de réalité climatique en Indonésie. Jusqu'à présent, il y a environ 300 Indonésiens en tant que leaders climatiques qui suivent la formation et travaillent dur pour lutter contre les changements climatiques. Al Gore, qui est maintenant connu comme un activiste du changement climatique, s'efforce à communiquer le changement climatique à travers divers moyens et forums. L'une des façons qu'il a prises était à travers le film An Inconvenient Truth, produit en 2007, et de ce qu'est Inconvenient Truth to Power, lancé cette année. Nurmala Kartini Syahril, conseillère senior en matière de changement climatique auprès du ministre des Affaires maritimes, a présenté plusieurs projets de réalité climatique de l'Indonésie pour soutenir le film. Elle a indiqué qu'en Indonésie, la projection du film se fera en coopération avec le secteur privé, les ONG et les universités. On a ciblé, dans les 6 prochains mois, 10 000 spectateurs dans les grandes villes indonésiennes peuvent être atteints. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
L'Indonésie a fait le transfert du leadership de l'Association des États côtiers de l'Océan Indien, ou IORA, à l'Afrique du Sud lors de la conférence ministérielle de IORA en Afrique du Sud en octobre dernier. Diverses réalisations importantes ont été réalisées en Indonésie durant sa période de leadership à IORA. Lors d'une réunion de la Fédération de la Chambre de commerce et de l'industrie de lundi avec des représentants des journalistes des pays membres de IORA à New Delhi, en Inde, le mardi 14 novembre 2017, la Fédération de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Inde apprécie le leadership de l'Indonésie dans IORA. Ajay Mutreja, le président du groupe de travail sur la Fédération de l'économie bleue de la Chambre de commerce et d'industrie indienne, a déclaré que l'Indonésie a réussi à organiser le premier sommet de IORA et formuler une vision pour l'avenir de IORA.
But I think thanks to the incredible, innovative and visionary leadership of Indonesia, and as a result,
merci pour le leadership indonésien, ce qui est très innovant et visionnaire. En conséquence, comme nous le savons tous, Jakarta a produit des documents très importants. Vous pouvez juger par vous-même des avantages à long terme de l'accord de Jakarta, du plan d'action, la déclaration sur la déradicalisation, etc. Selon Ajay Mutreja, la communauté des affaires qui sont membres de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Inde sont très actifs et engagés de développer des idées qui ont été formulées à Jakarta, qui est liée à l'autonomisation des femmes, l'économie bleue, la bonne gouvernance et la culture démocratique. IORA comprend 21 pays membres, entre autres l'Indonésie, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Bangladesh, l'Inde, l'Iran, le Kenya, Madagascar, la Malaisie, Maurice, le Mozambique, l'Oman, les Émirats Arabes Unis et Singapour. En 2017 est devenu l'année importante pour IORA parce que IORA avait 20 ans et le sommet de IORA s'est tenu pour la première fois. Les dirigeants des pays membres de l'ASEAN et la Chine ont convenu d'annoncer l'ouverture de négociations sur le cadre ethnique de code de conduite ou COC afin de résoudre le conflit de la mer de Chine méridionale. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Madame Retno Marsudi, a déclaré mardi matin à Mani que les dirigeants des pays participants au sommet de l'ASEAN-Chine au Centre international du Congrès de Mani dans le cadre du 30e sommet de l'ASEAN ont annoncé cette décision. Madame Retno Marsudi a affirmé que Singapour avait été désigné pour coordonner des négociations sur les points du code de conduite afin que Singapour ait le pouvoir de diriger les négociations entre les parties pour finaliser ces négociations. L'Indonésie, selon la ministre Retno Marsudi, continuera d'encourager toutes les parties pour que le code de conduite puisse être résolu immédiatement.
Untuk ASEAN-China, jadi kemarin leaders sudah sepakat meng-announce bahwa négociations.
Pour ASEAN et la Chine, les dirigeants ont convenu hier d'annoncer le début de négociations pour le COC. Et maintenant, cela signifie le processus de démarrage pour ASEAN-Chine, qui est le coordinateur et Singapour. Ainsi, Singapour parlera à la Chine pour déterminer la date de la négociation hier. Presque tous les dirigeants ont souligné l'importance de commencer des négociations immédiatement. Il y avait un accord sur le niveau des dirigeants pour commencer les négociations. Nous ferons pression pour que la finalisation des négociations soit continuellement poursuivie. Auparavant, le président indonésien Joko Widodo, à la réunion de ASEAN-Chine, a déclaré que toutes les parties doivent collaborer pour commencer et achever immédiatement le processus de négociation de code de conduite. Ceci est important pour prouver au monde que l'ASEAN et la Chine possèdent l'engagement élevé pour avoir un code de conduite. Le président Joko Widodo a également affirmé l'importance des efforts pour améliorer la coopération économique qui bénéficie des deux parties. De plus, actuellement, l'ASEAN souffre d'un déficit commercial assez grand, de sorte que le déficit commercial doit être supprimé, accompagné des efforts pour réduire les obstacles commerciaux. Le président espère également que la synergie de la coopération en matière d'infrastructure et de connectivité entre les initiatives de la ceinture et de la route et le plan direction de l'ASEAN pour la connectivité pourra bientôt se poursuivre. Le chef de Myanmar, Daw Su Kyi, a répondu à la demande des pays de l'ASEAN de prendre des mesures pour résoudre la crise humanitaire qui s'est produite dans l'état de Rakhine. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré mardi à Mani, aux Philippines, que le gouvernement de Myanmar avait commencé à effectuer la réalisation des recommandations du rapport de la commission consultative à l'état de Rakhine dirigée par Kofi Annan. Selon Mme Retno Marsudi, le dirigeant de Myanmar a également exprimé sa gratitude aux pays qui ont fourni une assistance, notamment au centre d'aide humanitaire de l'ASEAN. Selon elle, le gouvernement de Myanmar a également souligné l'importance d'achever le projet de mémorandum d'accord entre le gouvernement du Bangladesh et de Myanmar concernant le rapatriement des réfugiés Rohingyas résidant au Bangladesh. Le gouvernement du Myanmar s'est engagé à mettre en œuvre le projet de mémorandum d'accord 3 semaines après son approbation par les deux gouvernements.
Yang ketiga yang disoroti oleh Dosu adalah mengenai masalah returnee.
Le troisième souligné par Dosu est sur son problème de retour. Ainsi, les personnes qui reviendront et Dosu ont également exprimé l'importance du projet de mémorandum d'accord avec le Bangladesh sur le rapatriement qui sera bientôt achevé. Et la promesse du gouvernement de Myanmar est que 3 semaines après la signature du protocole d'accord, il sera mis en œuvre. Ce qui a été affirmé par Daw Su est plus important pour le protocole d'accord à être signé bientôt. Par conséquent, l'Indonésie essaiera de bien communiquer avec le Myanmar, le Bangladesh et avec d'autres parties afin que le projet de ce protocole puisse être achevé bientôt. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie était le premier pays à ouvrir des négociations pour résoudre la crise humanitaire dans l'état de Rakhine lors d'une réunion de chefs d'État de l'ASEAN à Mani, aux Philippines. Auparavant, le président indonésien Joko Widodo, lors d'une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'ONU, M. José Antonio Guterres, lundi soir, a exprimé de nouveau l'inquiétude de l'Indonésie face à la crise humanitaire dans l'état de Rakhine. Le président et le secrétaire général des Nations Unies ont les mêmes points de vue sur la crise humanitaire. Selon le président Joko Widodo, la crise aura un impact sur la stabilité et la sécurité de la région. En outre, selon le président, la crise humanitaire dans l'état de Rakhine donnera naissance à la radicalité et la menace du terrorisme si elle n'est pas résolue rapidement. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. La diversité devient une source principale de la nation indonésienne de faire des percées importantes afin de maintenir l'unité des différents éléments de la nation. C'est ce qui a été dit par le chercheur social de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, Aulia Huda, à la Voix de l'Indonésie, après le séminaire national sur la dialectique de multiculturalisme avec la nationalité, qui a eu lieu à l'Auditorium de LIPI, Jakarta, mardi 14 novembre. La jeune génération devient le fondement de l'avenir pour continuer la lutte de la nation indonésienne dans le progrès technologique.
Generasi mudanya ini kan juga tidak bisa langsung dianggap sebagai kelompok yang homogen ya. Maksudnya generasi muda sendiri itu heterogen.
La jeune génération ne peut pas être considérée directement comme un groupe homogène. Cela veut dire la jeune génération est hétérogène de beaucoup de choses, comme par exemple de sa génération, s'ils sont X ou Y, ou ils sont de quelle classe sociale, classe socio-économique, et le statut social. Ici, il y a un écart. En fait, la génération millénaire qui existe dans le niveau urbain de la classe moyenne. Ce que nous pensons avoir à ses alphabétisations, ils maîtrisent la technologie numérique. Ils ont déjà initié des mouvements et comment son mouvement qui a commencé dans ce milieu urbain est associé à celui qui existe dans le village. Le chef du Centre de recherche sociale et culturelle de l'IPI, Sri Sunarti Purwaningsi, a déclaré que la sauvegarde de l'unité de l'Indonésie avec diverses diversités ethniques et culturelles n'était pas facile. Par conséquent, de sauvegarder l'unité est la source principale dans la création du climat propice à la réalisation de la prospérité de la communauté. L'Indonésie accueillera l'exposition commerciale, des réunions, incentives, conférences et expositions au MIS de l'événement d'affaires ASEAN à Bumi Serpong Damai, Tangerang, du 9 jusqu'au 11 avril 2018. Le député de développement du marketing du tourisme de Nusantara, Madame Esti Reko Astuti, a déclaré que l'exposition de MIS était la première fois tenue en Indonésie. En outre, la mise en œuvre de ces activités se soudiront parmi les 10 pays membres de l'ASEAN. Selon Madame Esti, l'organisateur de MIS, l'événement d'affaires ASEAN 2018, en plus d'apporter des touristes étrangers, fournira également des opportunités pour des vendeurs de gagner des occasions d'affaires dans le domaine de MIS ou événements d'affaires. Portant le grand thème « Destin de l'ASEAN Plus » pour les réunions et événements, cet événement sera suivi par 200 vendeurs et 300 acheteurs internationaux. Cependant, de l'Indonésie, le nombre atteint 200 acheteurs potentiels. Selon Esti, les touristes étrangers qui suivent les activités de MIS ont des dépenses au-dessous de la moyenne, généralement 3 jusqu'à 5 fois plus élevées que les touristes ordinaires. D'habitude, ils viennent en grand nombre et sont très susceptibles de revenir. Chermi, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'un des sites touristiques au Molouk. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur Onkut, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, la beauté naturelle au Molouk ne présente pas seulement celle de la plage. Il y a encore beaucoup de beauté naturelle cachée dans cette province, comme aux îles de Kei, les Molouks du sud-est. Il y a un endroit qui possède la beauté naturelle magnifique, à savoir la grotte de Hawang. La grotte de Hawang est l'un des objets touristiques indonésiens qui a sa propre attraction. L'eau qui coule dans la grotte est directement reliée à la source de l'eau Dewu par la rivière souterraine. La source d'eau Dewu est la plus grande source d'eau aux îles Kei. L'eau est décorée de pierres stalagmites qui apparaissent du fond de la grotte, qui rend le paysage plus beau. En outre, les pierres de stalactites qui pente du plafond de la grotte ajoute également l'exotisme de la grotte de Hawang. Dans la grotte, il y a deux trous avec la distance de 15 mètres pour les amateurs de plongée. La grotte deviendra un bon endroit pour plonger dans la piscine de la grotte et entrer dans les deux trous de la grotte qui se pénètrent les uns les autres. Serviteurs, Il a une légende sur la grotte de Hawang qui est crue par les gens locaux. Selon la population locale, dans le passé, il y avait un homme qui sachait le sanglier avec des chiens. Pendant la chasse, le sanglier est disparu soudainement lors d'entrer dans la grotte de Hawang. À cause de la fatigue et de la soif lors de la chasse, il buvait l'eau de la grotte qui avait un goût très amer à cette époque. Il se sentait fâché et déçu. Le chasseur a dit des mots sales qui provoquent ces deux chiens et lui d'être maudit pour être de pierre. Jusqu'à présent, les pierres qui ont la forme de chasseur tenant la lance et de chiens peuvent être vues dans la grotte. La grotte de Hawang est située dans le village de Let Vuan, dans les îles de Kei, au sud-est des Moluques. Pour visiter cet objet touristique à partir du terminal de Langour, les touristes peuvent prendre le transport en commun ou louer une voiture à Let Vuan avec la distance de 15 km. Pendant la visite de la grotte de Hawang, nous vous suggérons d'apporter votre propre nourriture et boisson car il n'y a pas d'étal. À cet endroit, le touriste doit obéir aux règles comme ne pas dire des mots sales pendant dans la grotte. Pour la femme qui est la menstruation, il est interdit de nager dans la grotte. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La grotte de Hawang ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet pour aujourd'hui est berselancar, je répète, berselancar, ou en français, faire du surf. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répétez après moi. Liburan, liburan, en français, vacances. Suka, suka, en français, aimer. Menghabiskan liburan, menghabiskan liburan, en français, passer les vacances. Bermain selancar, bermain selancar, en français, faire du surf. Di mana? Di mana? En français, où? Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali. En français, la plage de Kuta Bali. Papan selancar. Papan selancar. En français, planche de surf. Tidak punya. Tidak punya. En français, ne pas avoir. Bisa menyewa. Bisa menyewa. En français, peut louer. Harga. Harga. En français, le prix. Mahal. Mahal. En français, cher. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. Besok. Besok. En français, demain. Maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Cette conversation est entre Andy A et Rudy B. A. Apa yang kamu lakukan pada saat liburan, Rudy? Apa yang kamu lakukan pada saat liburan, Rudy? En français. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances, Rudy? B. Saya suka menghabiskan liburan dengan bermain selancar. Saya suka menghabiskan liburan dengan berselancar. En français. J'aime passer mes vacances en surfant. A. Di mana? Di mana? En français. Où? B. Di pantai Kuta Bali. B. Di pantai Kuta Bali. En français. Sur la plage de Kuta Bali. A. Kamu punya papan selancar sendiri? Kamu punya papan selancar sendiri? En français. Tu as ta propre planche de surf? B. Saya tidak punya, tapi kita bisa menyewa. Saya tidak punya, tapi kita bisa menyewa. En français. Je n'en ai pas, mais nous pouvons louer. A. Saya pikir kamu punya papan selancar. Saya pikir kamu punya papan selancar. En français. Je pense que tu as une planche de surf. B. Tidak. Papan selancar harganya mahal. Tidak. Papan selancar harganya mahal. En français. Non. Le prix des planches de surf sont chers. A. Baiklah, besok kita berselancar bersama. Baiklah, besok kita berselancar bersama. En français. Eh bien, demain nous surfons ensemble. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de la Voix d'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se retrouve encore dans l'émission du magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons du groupe musical NAF. Pour commencer notre rencontre, je vous présente une chanson intitulée « Enfant, je t'ai trouvé ». Bonne écoute.
Ku berharap engkau lah cintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku.
Secrétor, c'est la chanson du groupe musical NAF dont le titre est « Enfin, je t'ai trouvé ». Le groupe NAF a été formé à Bandung, Java de l'Ouest en 1998. Au début, les membres de ce groupe étaient Adi comme chanteur, Dedi guitariste, Ode bassiste et Hilal batteur. Jusqu'en 2003, NAF a sorti 3 albums, ce sont « Né »,« Vol haute » et « NAF ». Le groupe est plus connu du public en 2006 par son album intitulé « Geste de cœur ». Les deux chansons principales de cet album sont « Tu es toujours mon amant » et « Enfin, je t'ai trouvé » qui ont réussi à attirer l'attention du monde de la musique indonésienne. Il n'a pas seulement obtenu beaucoup d'amateurs, mais aussi immédiatement accepté l'offre de remplir la bande sonore originale du film « Chocolate Strawberry » en 2007. Ses paroles et ses arrangements forts deviennent les caractéristiques de leurs chansons. Par exemple, les deux chansons principales, « Tu es encore mon amant » et « Enfin, je t'ai trouvé ». Ces deux chansons ont le thème triste, dont l'arrangement est capable de remuer l'émotion des auditeurs. De plus, le caractère vocal d'Adi est si fort et apprécie tellement chaque parole de la chanson. Cela ajoute de plus en plus la qualité des chansons de NAF. Bon, serviteur, écoutons donc la chanson suivante, intitulée « Tu es encore mon amant ». Bonne écoute.
Jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu.
jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku,
jauh
masih terukir namamu,
masih terukir namamu
jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku,
masih kekasihku.
Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan
kuserahkan hidupku. Zekute tujuh Labuan dari Indonesia Jakarta, Emersi de Trafidel. Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.